L'accessibilité.
Ça consiste à rendre tous les contenus accessibles à tous.
Pendant des décennies, l'industrie a sciemment ignoré tout ce qui n'était pas mâle, blanc, hétérosexuel, valide.
Tous les acteurs d'un projet numérique doivent faire des choses, en particulier les développeurs.
Manette directement dans un autre sens, avec un stick sur la paume pour jouer à une main, clavier découpé différemment, souris ergonomique.
C'est quasiment impossible.
Ça coûte de l'argent, vous comprenez? Et de toute façon, qui s'en fout des handicapés?
Parce que on a chacun des problèmes différents.
Mismatch.
Si on peut le faire, faisons-le.
La chronique qui vous parle accessibilité dans les jeux vidéo.
C'est compliqué, mais c'est pas impossible.
Chers auditeurs, bonjour et bienvenue dans Mismatch, l'émission dédiée à l'accessibilité des jeux vidéo. Elle est destinée aux professionnels, aux néophytes du média, mais aussi aux joueurs et joueuses. Je suis Damien Farjou, game designer de formation, consultant d'accessibilité de jeux vidéo et président de l'association Dear Valid People. Chaque semaine, nous mettrons en lumière, ensemble, chaque pièce du puzzle formant ce jeune domaine qu'est l'accessibilité de jeux vidéo. Étant moi-même handicapé, ma formation mêlée à mon expérience de vie m'ont amené à me spécialiser sur le sujet. Pour les chroniques à venir, nous nous concentrerons sur les idées reçues dont peut souffrir l'accessibilité des jeux vidéo. L'objectif est d'apporter une nouvelle lumière sur le sujet. Nous allons entamer cette série par la plus populaire et la plus néfaste. L'accessibilité dégrade le design. Cette affirmation n'existe seulement car l'accessibilité n'est pas intégrée au développement de jeux vidéo. Encore aujourd'hui, elle est pensée a posteriori du développement principal. Lorsque le temps et l'argent le permettent, cela donne la sensation qu'il existe deux versions du design, celui prévu à la base et celui accessible. Cela est dû à la compartimentation et au manque de considération de l'accessibilité. Comme vu dans un épisode précédent, cette compartimentation se va même dans les tests. Les tests généraux d'un côté, les tests d'accessibilité de l'autre. L'idéal voudrait qu'il n'y en ait qu'un et un seul design sans possibilité de comparer avec d'autres. Si l'accessibilité était perçue comme un gage de qualité d'un design à l'égal d'autres critères, cette croyance n'existerait plus. Or, il est encore ressenti comme un poids, une difficulté supplémentaire au développement des jeux vidéo. De plus, les concepteurs de jeux vidéo sont victimes d'un biais connu, réaliser des jeux vidéo pour eux-mêmes. Et rares sont les développeurs de jeux vidéo handicapés dans les studios. Donc rares sont ceux qui auraient l'idée, parce qu'ils en ont besoin, d'intégrer de l'accessibilité. En design, inaccessible ne répond pas à la promesse du jeu vidéo. Tout le monde peut jouer. Pour revenir sur la question du test, la presse vidéoludique vient nourrir ses stéréotypes négatifs. Pour elle, des jeux vidéo considérés comme des joyaux de design ne devraient pas être accessibles sous menace d'être altéré. Je pense que c'est dû à une incompréhension de l'accessibilité et, au contraire, si ces joyaux pouvaient être profités par tous, cela ne viendrait-il pas légitimer leur statut de joyaux? De plus, le monde du jeu vidéo connaît une stagnation en termes de créativité. La course technologique arrive à sa limite, ou d'autres critères que l'esthétique doivent être explorés pour se démarquer. L'accessibilité est un terrain de design encore inexploré, où l'innovation est à portée de main. Au travers de l'accessibilité, il est possible de trouver d'autres directions de design, comme a pu le déclarer David Galindo, directeur créatif de la série Cooks Serve Delicious. après 2 opus réussis, il ne savait plus quoi rajouter à la formule pour un 3e opus. Finalement, il s'est rendu compte qu'il pouvait se permettre une refonte du système pour qu'il devienne accessible et offrir une nouvelle dynamique de gameplay. Pour finir, je veux poser une question aux détracteurs de l'accessibilité. Pourquoi mettre tant d'énergie à critiquer un système qui ne vous concerne pas ? Si tu n'en as pas besoin, tu n'es pas obligé de t'en servir. De plus, si tous les titres étaient accessibles, personne ne verrait la différence, mais les joueurs handicapés, si. Il est temps de percevoir l'expérience vidéoludique comme multidimensionnelle. La version des designers n'est plus la seule à être considérée comme véritable. Elle est un compromis entre les designers et les joueurs. Elle est plurielle où chacun peut trouver une forme de fun. Je finirai par une dernière question. Est-ce que le design préalablement prévu provoque l'exclusion de certains joueurs ? Si la réponse est oui, alors je dirais qu'il est déjà dégradé. Pour le prochain épisode, nous allons décortiquer une autre idée reçue qui, selon moi, touche l'accessibilité à tous les niveaux et ralentit aussi sa démocratisation. L'accessibilité, ce n'est que pour les personnes handicapées. Vous venez d'écouter Miss Match, une émission créée par un concerné pour des concernés.
L'accessibilité.
Ça consiste à rendre tous les contenus accessibles à tous.
Pendant des décennies, l'industrie a sciemment ignoré tout ce qui n'était pas mâle, blanc, hétérosexuel, valide.
Tous les acteurs d'un projet numérique doivent faire des choses, en particulier les développeurs.
Manette directement dans un autre sens, avec un stick sur la paume pour jouer à une main, clavier découpé différemment, souris ergonomique.
C'est quasiment impossible.
Ça coûte de l'argent, vous comprenez ? Et de toute façon, qui s'en fout des handicapés ?
Parce que on a chacun des problèmes différents.
Mismatch.
Si on peut le faire, faisons-le.
La chronique qui vous parle accessibilité dans les jeux vidéo.
C'est compliqué, mais c'est pas impossible.